Dans le dernier épisode...
Nous sommes à Montréal au printemps de 1794. Une nouvelle manifestation se déroule sur la rue Notre-Dame.
Vive la République du Bas-Canada!
Robert Prescott en a assez. Il convoque alors un comité d'urgence à la sécurité nationale. Le 5 novembre 1796, Elmer Cushing reçoit à l'American Coffee House la visite d'un certain David McLean.
On le soupçonne même d'être un agent espion français. McLean révèle qu'il travaille pour le général Adet de l'armée française et que sa mission est de recruter 500 Canadiens pour renverser le gouvernement du Canada. Craignant les représailles de l'armée britannique, Cushing refuse d'embarquer dans l'affaire. Mais McLean, le sachant en difficulté financière, lui fait miroiter la possibilité de s'enrichir. Cushing hésite et, sachant qu'il en avait déjà trop entendu, finit par suggérer plutôt à McLean de retourner aux États-Unis le plus vite possible. Avant de quitter l'American Coffee House, McLean rappelle à Cushing qu'il a juré de garder le silence.
Mais le lendemain, incapable de garder le secret, Cushing se rend chez un ami, l'avocat Stephen Sewell. Installé à Montréal depuis 5 ans, Sewell s'était constitué une clientèle qui comprenait les plus grands marchands et les plus riches seigneurs de la colonie. C'est lui qui avait trouvé les créanciers pour la construction de la nouvelle auberge.
Merci de me recevoir, Maître Sewell.
Voyons, Elmer, depuis le temps qu'on se connaît, appelle-moi Stephen. Alors, c'est vrai que tu veux vendre ton auberge?
Oui, et le plus vite possible.
Mais pourquoi? Je suis sûr que d'ici un an ou deux, les affaires vont revenir comme avant.
Peut-être, mais avant, je n'avais pas de dette. Mais je ne viens pas te voir pour ça. Je veux plus d'informations à propos de l'offre du gouvernement qui donne des terres aux nouveaux arrivants.
Dans le Buckinghamshire? Well, il y a des conditions à respecter. Il faut avoir un contrat avec un minimum de 40 associés. S'occuper de l'arpentage, de l'ouverture des routes et de leur entretien. Mais pourquoi veux-tu aller là-bas?
C'est parce que je veux quitter Montréal. La vie en ville, c'est plus ce que c'était. Quand je suis arrivé il y a 6 ans, il y avait de la vie, de l'espoir. Mais là, c'est la grogne. Il y a des émeutes. Hier, j'ai même eu la visite d'un homme qui m'a parlé de rébellion.
What? Est-ce que c'est un de ces patriotes canadiens français? Tu sais, Elmer, si tu aides le gouvernement pour son arrestation, il y a une prime.
Oui, je sais. Mais ce n'était pas un Canadien français. C'était un Américain.
As-tu son nom? Si tu sais des choses que le gouvernement aimerait savoir, n'hésite pas. Ma porte est toujours ouverte. Pour ce qui est d'un canton, j'en parle à mon frère. Tu en auras des nouvelles bientôt. Et pour la vente de ton auberge, j'en parle. Je te le répète, en échange d'informations, les autorités n'oublient pas les honnêtes citoyens. Et tu es un honnête citoyen, Elmer. Allez, courage!
Malheureusement pour McLean, l'avocat Stephen Sewell est le frère de Jonathan Sewell, le procureur général du Bas-Canada.
Qui prend cette information très au sérieux.
Si M. Cushing veut garder son secret, il ne risque pas la déportation, mais l'emprisonnement.
Fine.
Comprends-moi bien, Stephen. Cushing a peut-être rencontré l'homme qu'on recherche depuis 2 ans. Tu le connais bien, ce Cushing?
Of course.
C'est un de tes clients?
Uh-huh.
Alors mets-le en confiance. Invite-le à venir me rencontrer à Québec pour discuter de son canton. Avec les informations qu'il détient, je serai reconnaissant envers lui et sa famille. Il pourrait être propriétaire du... Tiens, du canton de Shipton. Il est à nouveau disponible puisque Taylor n'a pas trouvé le nombre d'associés.
I see.
Mais il me faut plus d'informations si je veux procéder à l'arrestation de cet espion. Et Cushing doit s'engager à témoigner contre lui s'il y a un procès.
Et s'il refuse?
Il n'a pas le choix, Stephen. Ou il nous donne les détails et le nom de cet espion en échange du canton de Shipton, où c'est la prison à vie par trahison.
Sans le savoir, en révélant son plan à Elmer Cushing, McLean venait de se mettre la corde au cou.
Avec l'aide du guide Charles Frichette, McLean poursuit sa route vers Québec pour rencontrer le député John Black, qui avait été arrêté et emprisonné 2 ans auparavant pour participation à une émeute. Un candidat idéal pour l'aider dans sa révolution.
Mais ce que McLean ignorait, c'est que Black était un agent du gouvernement qui s'était infiltré parmi les patriotes rebelles. Les deux hommes finissent par se rencontrer dans un boisé à l'Anse des Mers.
En lui dévoilant son plan, la corde autour de son cou se resserrait. Black invite McLean et son guide à venir passer la nuit chez lui, à l'intérieur des murs de la ville. Dès leur arrivée à sa résidence, Black les quitte. Il se rend chez le conseiller législatif John Young pour les dénoncer sous serment. À la suite de quoi, Young envoie immédiatement un détachement armé.
Open the door! In the name of His Majesty the King!
Oublie pas, open. Je m'appelle Jacob Felt.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu?
Ouvrez! Sinon, je défonce la porte.
David McLean?
Non.
Qui êtes-vous?
Charles Frichette, guide canadien.
Nous cherchons David McLean. Nous savons qu'il est ici.
Qu'est-ce que c'est?
David McLean?
Non. Je me nomme Jacob Felt.
Prouvez-le.
Fouillez dans mon sac, vous verrez, il y a des papiers à mon nom.
Au nom de Sa Majesté, vous êtes tous les deux en état d'arrestation.
Regardez dans mon sac! Je suis Jacob Felt!
Vous direz ça à la caserne. Vous aussi, vous venez avec nous.
Mais je le connais pas, lui!
Le piège vient de se refermer. David McLean est arrêté et emprisonné sans qu'aucune accusation formelle ne soit portée contre lui.
Un procès aura lieu 3 mois plus tard. Pour nous aider à comprendre les rouages juridiques de l'époque, nous avions besoin d'aide.
J'ai fait beaucoup de recherches sur cette histoire. Et chaque fois qu'il est question du procès de McLean, le nom de l'historien Maurice Boisvert est cité. C'est une sommité en histoire et l'auteur de nombreux documents sur le droit juridique et l'histoire du Bas-Canada, dont un livre qui porte spécifiquement sur le procès de David McLean. Voici un extrait d'une entrevue qu'il accordait sur le site web « L'autre histoire d'un Canada ».
Nous sommes de retour avec notre invité. Monsieur Boisvert, pourrait-on dire aujourd'hui que le nom du gouverneur général du Bas-Canada, Robert Prescott, est plus connu que son œuvre politique?
Oui, tout à fait, puisque son nom est d'abord associé à la crise de paranoïa du gouvernement du Bas-Canada. D'ailleurs, j'invite tout passionné d'histoire à lire ou à relire l'analyse que j'ai faite des discours de Robert Prescott.
En quoi son œuvre politique a-t-elle laissé des traces?
Dès son arrivée au pouvoir, son premier geste est de sécuriser la colonie contre toute nouvelle invasion, qu'elle soit américaine ou française. Après 1797, il décrète l'arrêt de l'immigration des prêtres français, parce qu'il redoute la propagande nationaliste canadienne-française.
Dans votre livre « Condamnation d'un traître », vous dites que le procès McLean a été l'événement déclencheur de la réforme du système d'acquisition des terres entreprise par Robert Prescott. Pourquoi?
Parce que certains témoins ont reçu des terres suite à ce procès sans avoir suivi la procédure légale. Et c'est à ce moment que Prescott réalisa l'ampleur de la situation. Il a même accusé certains membres de son propre conseil exécutif de comploter afin d'acquérir des terres dans un but purement spéculatif. 2 ans après le procès, la situation n'avait pas changé. Agacé, Londres finit par lui demander de rentrer au pays. Prescott conservera son titre de gouverneur général du Bas-Canada, mais n'y remettra plus jamais les pieds.
J'ai réussi à le contacter. Je lui ai parlé du balado. Il nous a invités chez lui. Bonjour, Monsieur Boisvert.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Entrez, entrez.
Ça me fait plaisir.
Je suis très content de participer à ce projet. Comme quoi l'histoire et la culture peuvent faire un beau mariage. Mais dites-moi, comment vous est venue l'idée de faire un balado sur la création du canton de Shipton?
C'est un incroyable enchaînement d'événements. Lors d'une soirée organisée par la Société d'histoire des cantons, M. Daniel Peter a présenté un exposé sur le procès McLean.
Ah oui?
Tout de suite, ce récit nous a passionnés. On s'est lancé dans la recherche historique.
Et au même moment, CJAN, la radio locale, annonçait la création de sa plateforme web. Et le directeur de la programmation désirait y produire et diffuser des balados régionaux.
Wow!
Une semaine plus tard, il y a eu un appel de projet de la MRC des Sources avec CJAN comme partenaire. Nous avons proposé le balado qui a été accepté.
On a concentré nos recherches sur Shipton, élaboré un scénario et monté une équipe. Aujourd'hui, avec vous, on aimerait préciser ce qui s'est vraiment joué lors du procès de McLean et en quoi ce procès est si important dans l'histoire de Shipton.
Vous ne pouviez pas parler de l'histoire de Shipton sans parler de ce procès qui, en passant, a été le premier procès imprimé dans son intégralité. Accusations, témoignages et condamnations. Plus de 2000 exemplaires ont été distribués.
Ah oui?
Ce procès s'est tenu dans un contexte social particulier. Depuis 3-4 ans, des émeutes éclataient à Montréal contre les lois sur l'obligation de servir dans la milice britannique et celle de l'entretien des routes. Pendant ces manifestations, on y a entendu des slogans empruntés à la Révolution française. Robert Prescott s'est mis à avoir peur. Une rumeur courait que la France voulait reprendre le Canada aux Anglais. Prescott a mis alors sur pied une milice secrète et a procédé à l'arrestation de centaines de personnes. Le plus célèbre est David McLean, accusé de haute trahison.
Et quel est le lien au juste entre David McLean et la création du canton de Shipton?
Elmer Cushing. Depuis environ 2 ans, McLean parcourait le Bas-Canada à la recherche de partenaires pour son projet politique que plus d'un ont qualifié de farfelu. Mais sa visite à l'American Coffee House de Elmer Cushing lui sera fatale. Car après la visite de McLean, Cushing est allé à Québec rencontrer le procureur général du Bas-Canada, Jonathan Sowell. Mais il n'a pas donné le nom de McLean tant et aussi longtemps qu'il n'a pas eu en main un contrat où la promesse d'un canton était écrite. Une fois le contrat signé, là, il a accepté de témoigner contre lui.
Finalement, les Anglais ont acheté Cushing plus qu'ils n'ont vendu McLean.
Cushing était coincé. Le procureur Sowell lui donnait le choix. Le canton Shipton contre son témoignage ou des chaînes aux pieds pour son silence.
Cushing a raconté son histoire à une seule personne. Et le hasard a voulu que cette personne soit le frère du procureur général du Bas-Canada.
Il n'y a pas de hasard, Madame Tremblay. Le procès sera précédé d'une commission spéciale et c'est Robert Prescott lui-même qui nommera tous les membres du conseil exécutif de ce grand jury. Parmi eux se trouvaient des commerçants et des fonctionnaires en vue. Le petit jury, lui, a été soigneusement sélectionné pour sauvegarder l'unanimité du verdict. On y trouvait des personnalités connues dans le commerce d'exportation. Aucun Canadien français n'a été choisi.
OK.
Une vraie parodie de justice. McLean, comme le public, croyait à un procès juste et équitable, puisqu'il semblait fait selon les règles. Mais ces règles étaient appliquées en prévision d'un seul verdict, celui de culpabilité.
On a apporté une version scénarisée du procès présidé par le juge William Osgood.
Mm-hmm.
Vous êtes celui qui pourra le mieux nous indiquer où ces règles sont faussées.
Veuillez vous asseoir. Je laisse la parole à Maître Alexis Caron, représentant de la Couronne, pour présenter les actes d'accusation qui pèsent contre le prisonnier McLean.
Votre Honneur, messieurs les grands jurys, messieurs les jurys, mesdames et messieurs, l'accusation de haute trahison qui pèse contre le prisonnier est l'accusation la plus grave que la justice de Sa Majesté puisse porter contre un individu. Elle consiste en deux grands chefs d'accusation formant deux types de trahison. Premièrement, d'avoir fomenté un complot pour la mort de notre monarque Georges III. Puis, d'avoir pris part avec l'ennemi à une tentative de soulèvement contre le gouvernement. La trahison n'est pas un crime comme les autres. La preuve sera donc basée sur les différents témoignages qu'entendront les jurés. Puis, ils devront décider, 1. si le prisonnier a tout fait pour exciter une rébellion, et 2. s'il a oui ou non conspiré pour la mort du roi. Car la mort politique est la même chose que la mort naturelle. Messieurs les jurys, la Couronne fera entendre des témoignages accablants et mettra devant vous des preuves convaincantes des actes d'accusation chargés contre le prisonnier. Si les deux chefs d'accusation sont prouvés, votre seul verdict sera de le déclarer coupable. Je remercie la Cour. J'appelle à la barre mon premier témoin, M. William Barnard.